Hey, papy, 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 viens, on va se promener. Allez, papy, viens, on va se promener. Mais non, mon garçon, tu sais bien que je faut que j'aille travailler. Mais papy, t'es pas en retraite? Mais si, mais elle est trop petite, alors j'ai pris un travail. Bah, papy, alors on n'ira pas se promener? Mais non, c'est comme ça, chez Sarkolande. Oh, bah alors, papy, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, bon courage pour travailler, papy. Merci, mon petit garçon. C'est peut-être ce qu'on va entendre dans quelques années. Moi, personnellement, ça me saoule grave. Moi, je me souviens, mon grand-père, le mercredi, il m'a emmené au cinéma. Voilà. Merci, Sarko. Merci, Christine Lagarde. Vous êtes vraiment des enfoirés. Allez, ciao tutti. Bruno Parigi. Allez, je vous embrasse tous. Ciao.
C'est sur France Intérieur, lundi 5 mai, que j'ai entendu l'annonce de la mort de Lucien Jeunesse. Par Philippe Bertrand, je crois, vers 1,5 million, qui a reçu Louis Boson, tout ça, bon. Et puis au 13h, ils ont commencé avec ça. Bon, je trouvais ça normal. C'est une institution pour France Inter. Ça fait partie de l'histoire de France Inter. Ils ont consacré 10 minutes à la mort de Lucien Jeunesse. Bon, comme je dis, je trouve ça normal. Mais bon, bah, parce que moi j'ai beaucoup écouté depuis l'enfance, hein, depuis tout petit, le jeu des 1000 francs. Et voilà. J'aimais pas particulièrement Lucien Jeunesse. Par exemple, je préfère beaucoup Louis Boson. Je dis pas ça parce qu'il est vivant et parce qu'il a soutenu Mermé, mais il est beaucoup plus bienveillant, quoi. Jeunesse, c'était encore cet esprit un peu obséquieux, un peu ironique aussi. Quand les gens ne trouvaient pas, il dit, et puis qui donnait la réponse, il dit oui, bien sûr, vous le saviez. Ouais. Bon, mais il était déjà moins pire que Lanzac, qui se foutait carrément de la gueule des candidats. Oui, Boson a introduit quelque chose de pas mal, quoi. Bon, voilà. Alors, je me dis, bon, mais c'est normal, quoi. Moi, ça fait 50 ans que j'entends le jeu des 1000 euros, des 1000 francs, grâce à mon grand-père. Et puis, c'est en fin de journal, quoi. Vers 13h27, juste avant Moustaki, une brève. Et nous apprenons la mort de l'écrivain Frédéric Fajardi. Il avait 60 ans. Et alors ça m'a fait quelque chose. Parce que Fajardi, c'est... Je connais qu'un seul livre, hein, La nuit du charbouté. Mais c'est une merveille.
Si vous le permettez, j'aimerais rendre hommage à cet AMG qui intervient souvent sur ce répondeur. Je ne connais pas son nom, mais lors d'une de ses dernières interventions, il parlait d'une certaine boîte avec des miettes et des oiseaux, et dont la mère ne le lâchait pas à ce propos. Il a une voix, si reconnaissable, donc j'espère que vous reconnaissez de qui je veux parler. Je trouve qu'il a des propos justes et lucides, et j'adore la façon dont il a, dont il rend tout ça poétique et philosophe et sage. Donc, ami, si tu te reconnais, je te salue bien bas. Et je suis certain que d'autres AMG s'éloignent à moi par la pensée pour cet hommage. Allez, à bientôt, ciao.
Ouais, l'ancien patron de Renault, comment est-il touché? 7 millions d'euros. Ben nous, je travaille dans l'automobile, mais on peine à avoir l'augmentation de salaire. Hein, toujours pour les mêmes, c'est des millions d'euros. Pendant que nous, on galère tous les jours. On se lève le matin de bonne heure. On n'a pas une grosse paye. Ouais. Salut.
Oui, salut Mermé. J'ai bien écouté un espèce de jeune abruti parler de l'Algérie en me disant qu'il ne s'était rien passé, que les Pinoirs avaient eu peur pour rien. J'ai la moitié de ma famille qui est morte en Algérie. Je suis descendant de Pinoirs, je peux vous en parler, moi. Il s'est pris pour qui, lui, de raconter ça? Enfin, je pense que mon message passera pas. C'était Pierrot de Sifour.
Quelle surprise d'entendre qu'il y avait un sujet sur les pieds noirs dans l'émission. En plus, ça avait l'air positif. Ça a démarré positif, oui, c'était certains pieds noirs sont restés vivre, travailler, avoir une vie de famille après 62 en Algérie. Ils y vivent toujours d'ailleurs, je les ai interviewés, ils m'ont dit qu'il n'y a aucun problème pour rester, pour s'intégrer, etc. Vous voyez que c'est possible, quand je pense qu'on parle tant du danger que cela représentait, ben non, c'est pas vrai. Je résume bien sûr. Mais il m'a mise en colère ce journaliste. C'était trop beau. J'ai pu croire qu'on allait dire des choses sympathiques sur les pieds noirs, mais non, les pieds noirs c'est encore le diable. Mais monsieur le journaliste, d'où tenez-vous ces croyances sur des gens dont vous ne connaissez que des caricatures, d'une histoire dont vous ne connaissez que certaines facettes? Je suis pied noir d'Alger, d'une famille de 4 générations en Algérie. J'avais 14 ans en 62 et j'ai bien connu quelqu'un qui voulait rester dans son pays, y travailler, y avoir une vie de famille. C'était mon père. Il avait 34 ans, ma mère 32 et j'étais l'aînée de 3. Il nous a accompagnés en France, dans la famille, en juillet 62 et il est reparti pour travailler le 16 août. En laissant ma mère qui devait le rejoindre à la fin de l'été avec ma petite sœur de 2 ans. En arrivant à Alger, mon père a pris sa voiture pour faire les 400 km qu'il séparait de Tiaret, où nous habitions depuis 3 ans, et il n'est jamais arrivé. On a retrouvé sa voiture vide, à 150 km d'Alger. Nous n'avons plus jamais rien su sur mon père. Silence de mort. Disparu sans laisser de traces. Sauf dans nos cœurs et dans nos vies. S'il était resté en France, il ne serait pas mort. Il a perdu la vie parce qu'il voulait continuer à vivre sur sa terre natale. Et des milliers d'autres comme lui ont disparu.
Une plaie à peine refermée, cette histoire des pieds noirs. Pourtant, l'intervention était brève dans le numéro du Monde diplomatique hier. Eh bien, on a eu beaucoup de messages de pieds noirs, d'anciens d'Algérie, pour dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas vrai. Moi, mes parents, moi-même, etc. » Alors, je vous engage déjà à lire soigneusement ce papier dans le Monde diplomatique, signé de Pierre Dôme, et aussi, éventuellement, si vous le pouvez, d'assister à la conférence débat organisée par la Ligue des droits de l'homme et la section de Paris des Amis du Monde diplomatique, qui se tiendra le lundi 26 mai 2008 à 19h à l'Hôtel de Ville de Paris, au Grand Auditorium, avec Pierre Dôme, qui est l'auteur de ce papier, avec Mohamed Harbi, avec Jean-Pierre Ledo, Gilles Manceron et Benjamin Stora, historien de cette période et de cette région du monde. Il y aura également le dessinateur Aurel qui fera des dessins en direct tout au long du débat. Et c'est effectivement un sujet considérable. Il y a un film qui est sorti sur ce sujet de Jean-Pierre Ledo, Algérie, histoire à ne pas dire. Alors, voilà, on croyait effectivement cette histoire oubliée, ces 40 et quelques années. Eh ben non, c'est toujours à vif et donc c'est passionnant, et de la part des uns et des autres, ça mérite sans doute des débats et des précisions. C'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui à propos d'une autre histoire qui est parfois des liens avec ce que je viens d'évoquer, celle d'Israël. C'est le 60e anniversaire de la naissance d'Israël, 14 mai 1948, mais c'est aussi évidemment la naissance, si on peut dire, le point de départ d'un conflit qui implique évidemment les Palestiniens, qui seront le dommage collatéral depuis 60 ans de cette histoire. 60 ans si on prend ce point-là, mais bien sûr que il y a eu beaucoup de conflits avant cette date-là. Alors évidemment, on va parler on va retracer l'épopée, on va parler de paix, de pourparlers, de négociations, de processus, etc. Or, Régis Debray dit il faut arrêter ces mensonges. C'est un endormissement de l'opinion, dit-il, que de croire qu'on va vers la paix, on se berce, on se leurre. Il n'y aura pas d'État palestinien. Il faut arrêter cette tartufferie. Qu'est-ce qui lui fait dire ça à Régis Debray, eh bien, c'est un long voyage qu'il a effectué en Terre Sainte, un Candide en Terre Sainte. C'est un bouquin qui est sorti il y a déjà quelques semaines chez Gallimard, et c'est un voyage de Debray, pas seulement dans l'actuel Israël, Palestine, mais aussi bien au Liban, en Syrie, partout où un certain Jésus aurait mis ses pieds. Chemin faisant, c'est l'occasion de réflexion, d'observation, savante, religieuse, de petites notes, et aussi évidemment d'un souci des réalités politiques. Or, concernant le conflit, ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, eh bien, Debray dit la colonisation se poursuit, la construction d'infrastructures, de ponts, de tunnels pour relier en Cisjordanie trois minuscules bantoustans, et beaucoup d'autres indications très précises montrent que l'État palestinien ne se fait pas, ne se ferait pas, ne se fera pas, et malgré l'évidence, on fait comme si. Et le nettoyage ethnique soft, dit-il, se poursuit. C'est le point de vue aussi de Leila Chahid, qui vient de passer un mois en Palestine où elle n'avait pas pu se rendre depuis 4 ans. Ça peut paraître étonnant, alors qu'elle est, elle est déléguée générale de la Palestine auprès de l'Union européenne quand même, et elle fait un peu le même constat. Jérusalem, dit-elle, aujourd'hui n'a plus d'existence en tant que ville arabe, c'est devenu quasiment irréversible, dit-elle, frappée par le mur auquel elle se heurte à Jérusalem. Bref, oui ou non, cet État se fera-t-il un jour ? Il y a 10 ans, en 1998, avec Guy Van Til, on vous avait présenté une série de reportages en Israël et dans les territoires palestiniens qu'on avait intitulé « Palestine, mais dans quel État ?» Aujourd'hui, on pourrait pas intituler, il faudrait qu'on dise Palestine un État ou pas d'État. Et ce serait sans doute pas d'État. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Comment on est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui fait que la communauté internationale, cette abstraction sans limite, est aussi impuissante ? Pourquoi l'Europe est-elle aussi impuissante ? Quel est le rôle des uns et des autres à l'intérieur ? Et qu'est-ce que donnerait la politique actuelle d'Israël si elle était poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire au fond si Israël annexait tous les territoires palestiniens, eh bien il n'y aurait plus qu'un État, un État où les Palestiniens auraient quoi ? Quel droit auraient-ils dans ce grand Israël, puisque c'est le rêve pour certains, c'est le but pour certains. Quelle serait la place de ces Palestiniens et que deviendrait un État juif ? L'État juif serait-il toujours juif dans ce cas-là ? On arriverait en tout cas par l'ultra-droite, pourrait-on dire, à ce à quoi rêve un certain nombre d'intellectuels, de politiques depuis longtemps, un État binational. Il y a là quelque chose d'étonnant et d'absurde si on y pense. C'est-à-dire que le grand Israël serait la fin d'Israël, en quelque sorte. C'est des questions qui sont capitales et très importantes à se poser, une fois qu'on a mis de côté, qu'on a mis en doute ce discours sur l'énifiance, sur la paix, le processus et les négociations qui en sont où ? Sait-on où elles en sont, ces négociations ? Voilà, en tout cas, c'est notre sujet du jour, avec Régis Debray, donc auteur de Un Candide en Terre Sainte, et Leila Chahid, déléguée générale de la Palestine auprès de l'Union Européenne. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Eh ben, la Birmanie, eh bien voilà, la Birmanie, 10 ou 15 000 ou 20 000 morts, mais c'est pas si grave. Ce que la France a débloqué, combien j'ai entendu tout à l'heure sur France Inter, 200 000 euros. Vive la France!
Bonjour, c'est Marc. Alors, j'entends aux infos là ce matin qu'en Birmanie, il y aurait 1 million de sans-abri qui seraient partout, dans les rues, dans les campagnes. Et la France débloquerait 200 000 euros. 200 000 euros, c'est même pas le prix de la maison qui s'est vendue là à côté de chez moi. Et les États-Unis débloqueraient 250 000 dollars. Donc, je ne sais plus en euros, ça doit faire entre 200 et 230 000 euros à peu près. Donc, entre les États-Unis et la France, on offre deux maisons. Deux maisons, ben, c'est le début, hein, c'est le début d'un quartier. Allez, salut!
Bonjour, je suis Dion, assistant social à Lyon. Pour vous dire que la DRAS, Direction Générale des Affaires Sanitaires et Sociales, est occupée à Lyon par un groupe d'une trentaine d'étudiants pour dénoncer en fait le décret du 31 janvier 2008 qui nous met en péril nos formations en alternance dans tout le secteur social, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés. Ces étudiants occuperont la DRAS tant qu'une réunion de tous les étudiants de la région Rhône-Alpes, de tous les directeurs de centres de formation de la région Rhône-Alpes n'aura pas été convoquée. Et nous voulons obtenir d'eux un gel des stages sans condition, car nos formations sont en péril avec ce décret. Pour des formations qui sont dans un secteur non marchand, il n'est pas adapté à nos métiers et nous le dénonçons fermement et nous demandons à M. Mermet une émission autour de ce sujet de la gratification des stagiaires du social. Voilà. Au revoir.
Bonjour. Les militants de l'UMP sont cordialement invités ce soir à la salle Gave-Vaux pour l'auto-congratulation de notre président de la République à l'occasion de son premier anniversaire. Qu'est-ce que tu dis, non ? Ah, 52 ans, pardon. Oh, vous m'avez compris. Bon courage à tous.
Salut, c'est Daniel Mermel, là-bas si j'y suis, avec Régis Debray, Leïla Chaïd. Y aura-t-il un État palestinien ?
Flight number 2, arriving.
Alors, à Bruxelles, Leïla Chaïd, bonjour.
Bonjour.
Et à Paris, Régis Debray, bonjour à vous. Alors, on part d'un extrait d'un livre signé Régis Debray qui s'intitule « Un Candide en Terre Sainte ». C'est un voyage. Régis Debray ne se prend pas pour Jésus, mais a marché sur les pas de Jésus, reprenant le traditionnel, j'allais dire, voyage en Terre Sainte, comme on le faisait jadis, et comme le fit, par exemple, un certain Flaubert. Donc, c'est un carnet de route avec des notations, des impressions, des analyses, des digressions, qui, peu à peu, constituent donc ce voyage. Ce qui est intéressant, c'est le Candide. Ça, c'est un truc de Debray. C'est de toujours dire, moi, j'y connais rien, je ne suis pas journaliste, j'ai été philosophe, mais je ne le suis plus. Enfin, voilà, je tâtonne. Sauf que là, à la page 368, ça ne tâtonne plus. Ça ne tâtonne plus. Il faut rappeler que le livre a été inspiré par François Maspero, qui a suggéré à Régis Debray d'écrire ce livre, mais le livre a été commandé par Jacques Chirac, ex-président de la République, qui, cher Debray, vous avez commandé, quoi donc, une étude ?
Un petit rapport sur les relations interreligieuses et donc interpolitiques dans la région, voilà, entre juifs, chrétiens et musulmans.
Très
y
bien.
Y compris chrétiens arabes.
Très bien. Or, à la page 368, et là c'est une note adressée à l'époque, en janvier 2007, à notre ex-président de la République, vous dites « Palestine pour une cure de vérité ». Alors, quelle était cette cure de vérité ?
Bah, c'était le constat, si vous voulez, que il y avait un dédoublement complet entre ce qui se dit en Occident et ce qui se passe sur le terrain. On nous répète chez nous que la paix est pour demain, les négociations avancent, il y a des contacts entre l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien, il y a un quartet, enfin bref, vous connaissez tout cela. Et puis qu'est-ce qu'on constate sur le terrain ? Eh bien qu'un processus de colonisation se poursuit de façon inexorable, non seulement inexorable et assez méthodique, avec un système de routes, de tunnel qui fait tout simplement la frontière d'Israël et sur le Jourdain. Alors il y a un territoire effectivement peuplé d'Arabes, ben, ce territoire, la Cisjordanie, on le découpe en petits morceaux et on invente des petits isolats, certains disent Bantoustan, d'autres disent municipalités autogérées pour en quelque sorte encercler les Palestiniens subsistants, si j'ose dire. Donc schizophrénie, écran de fumée, mensonge autoprotecteur, on nous berce avec cette sorte d'opium des riches qu'est la croyance que les deux États, c'est pour demain, que tout ça va s'améliorer. Monsieur Bush et Monsieur Sarkozy exercent des pressions, paraît-il, pour que tout cela aboutisse avant la fin de 2008. Pipo, pipo.
Alors, Leïla Chaïd à Bruxelles, vous, ce que vous nous dites récemment dans une interview au quotidien L'Humanité, on est assez surpris d'apprendre que vous êtes retourné en Palestine au bout de 4 ans d'absence. On s'imagine que Leïla Chaïd est en permanence entre Bruxelles et Ramallah. Eh ben non, pas du tout. Vous êtes retourné au bout de 4 ans. D'abord, pourquoi si peu de voyages en Palestine?
Tout simplement parce que, aussi surréaliste que ça paraît, je ne peux pas aller en Palestine sans un visa des autorités israéliennes. Et dans les dernières 4 années, il faudra leur demander à eux, ils n'ont pas voulu m'accorder ce visa. Donc je n'ai pu de nouveau avoir un visa pour pouvoir aller comme touriste dans mon propre pays qu'au mois de mars. Et donc j'en ai profité pour passer tout le mois de mars et je repars dans 3 jours parce que j'ai de nouveau obtenu un visa, ce qui est la moindre des choses, je dirais, si vraiment il y a volonté de paix, s'il y a volonté de négociation. Mais je dirais que ce voyage était très instructif dans le fait qu'il m'a permis de voir ce que Régis Depré a vu dans son long voyage à travers le pays, c'est que en 4 ans, la régression terrible qu'il y a eu sur le plan de l'espace et du territoire, et dans l'espace, je mets autant la terre que ses habitants, il y a une situation absolument catastrophique qui vide de son contenu toute cette idée d'un État palestinien. Je crois qu'on ne peut pas aller sur place et ne pas réaliser que les Israéliens ont trouvé, en tout cas le gouvernement de M. Olmert, et avant lui celui de M. Sharon, parce que je crois que la politique de Rabin était très différente, ont trouvé le meilleur moyen de lutter contre le principe d'un État en détruisant sa base territoriale, ça veut dire en étendant les colonies et en faisant des tunnels et des routes de détournement pour ces colonies, et en fragmentant la population, ça veut dire en la réduisant à des petits ghettos assiégés. Et je crois que cette stratégie de fragmentation du territoire et du tissu social est en train malheureusement de gagner, pendant que le monde entier est en train de célébrer non seulement un processus qui n'existe pas, mais les 60 ans de succès de l'État d'Israël, en oubliant encore une fois les Palestiniens.
Voilà, en oubliant encore une fois les Palestiniens. Mais ce que vous dites dans cet entretien à l'Humanité, vous évoquez Jérusalem, on comprend que c'est le point de départ de votre voyage de retour, c'est ça?
Oui, tout à fait. Jérusalem a une fonction très importante dans le projet de l'État. Premièrement, elle est historiquement, socialement, culturellement, je dirais sur le plan aussi de la religion, mais aussi de la réalité historique de sa place comme le cœur de la société israélienne. C'est pour ça qu'elle doit être un jour la capitale de la Palestine, en tout cas au moins à l'Est, et elle peut être la capitale d'Israël aussi, et on aura fait de Jérusalem un lieu unique comme il doit l'être. Et je pars 4 ans, je reviens, je ne littéralement retrouve pas le chemin de Jérusalem. Ça veut dire qu'ils ont non seulement étendu de manière absolument incroyable et de manière très laide, ils ont défiguré Jérusalem en construisant des blocs de colonies qui sont des bunkers sans arbres, sans verdure, tout autour de l'est de la ville, en prenant en étau la population à l'est de Jérusalem. Et ils ont voulu relier ces nouvelles colonies à l'est de Jérusalem par des embranchements d'autoroutes qui survolent littéralement les Palestiniens, qui leur passent par-dessus la tête pour arriver à Jérusalem-Ouest. Alors en plus, les Français ont cru bon faire un tramway qui fait la même chose, lui, avec des rails qui vont de Jérusalem-Ouest aux colonies en passant sous le nez des Palestiniens, en violant le droit international. Et on a l'impression qu'il y a comme une course en Israël pour imposer un fait accompli qui est non seulement l'annexion politique, puisqu'elle a été faite depuis malheureusement longtemps, et le monde s'en adapte très bien avec beaucoup d'hypocrisie, parce qu'on continue à dire qu'on ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale d'Israël, mais tout le monde continue à fonctionner avec la réalité de fait imposée par Israël. Et donc on a le sentiment qu'il y a, avec le mur qui aujourd'hui à Jérusalem est de 9 mètres 12, c'est un mur de béton armé qui sépare Palestiniens de Jérusalem de Palestiniens de Cisjordanie, il est une réalité totale. Et je ne vois pas comment on peut parler d'un État palestinien s'il n'a pas un noyau autour duquel il peut fonctionner, ça veut dire une capitale qui est Jérusalem.
Si on réécoutait ce que vous venez de dire, Leïla Chaïd, à un moment vous avez dit en violant le droit international. C'est entre deux phrases, hein, vous appuyez sur des phrases, et puis comme ça, comme si c'était une chose tout à fait naturelle, bien évidemment, en violant le droit international.
Mais ça fait 60 ans qu'Israël vole le droit international.
Voilà, en parlant du tramway, hein, en violation du droit international.
Les colonies sont en l'occupation des territoires pendant 41 années.
Régis Debray.
Oui, j'aurais une question à vous poser, Leïla Chaïd. Vous avez dit très justement, le monde s'adapte très bien à ce déni du droit, qui est d'abord un déni de réalité. Mais chez certains, c'est du cynisme. Mais chez d'autres, c'est beaucoup d'optimisme fondé sur la naïveté, sur l'ignorance, sur le fait qu'on se berce d'espérances illusoires, sur un processus de négociation dont on espère qu'il va, à la fin de l'année ou dans deux ans, déboucher sur quelque chose. Mais ma question est, qui a intérêt à ce déni de réalité ? C'est sans doute pas les Palestiniens. C'est sans doute la partie la plus forte, c'est-à-dire Israël. Pourquoi ne réveillez-vous pas l'opinion en mettant à bas un certain nombre de fictions ? Fiction des négociations, fiction d'une autorité palestinienne qui n'a plus d'autorité pratiquement, qui sert à collecter l'aide internationale, dont certains disent qu'au fond, elle paye, cette aide internationale, les frais d'occupation israéliens en Cisjordanie, ou j'allais dire les coûts de l'annexion, puisque ce grignotage est en fait, à travers la colonisation, une annexion de facto. Donc, pourquoi, l'autorité ne démissionne-t-elle pas? L'autorité ne s'adresse-t-elle pas à l'opinion internationale par des propos réalistes et radicaux disant « on vous ment », ça ne se passe pas comme vous croyez que ça se passe. Troisièmement, nous allons être contraints de changer de stratégie. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Ça peut être... J'ai vu hier un film admirable d'un Israélien, Les Citronniers, n'est-ce pas ? Là, on voit effectivement une femme israélienne, une femme palestinienne qui prennent conscience d'une réalité. Pourquoi ne pas penser à une sorte de mouvement à la Gandhi de grève pacifique ou en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut plus continuer sur cette comment dirais-je, sur ce mensonge perpétuel. Pourquoi ne prenez-vous pas des mesures ?
Leïla Chaïd.
Je vais répondre une à une aux questions. Pour commencer, je pense que le déni de réalité, il n'est pas seulement israélien. Il est évident, je dirais, il est même pathologique dans l'establishment politique et militaire israélien. Grâce à Dieu que dans la société israélienne, il y a beaucoup de gens qui voient les Palestiniens, qui luttent avec eux tous les jours, même s'ils ne sont pas représentatifs de la majorité. Et le mur représente une tentative d'empêcher ce genre d'Israéliens de continuer à fonctionner avec les Palestiniens, parce que tout simplement, il est interdit aux Israéliens de venir chez les Palestiniens. Les seuls qui ont droit de venir chez les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, c'est les militaires, c'est les soldats. Mais le déni est surtout d'une communauté internationale qui, elle, à mon avis, doit être beaucoup plus critiquée parce qu'on ne peut même pas lui donner le bénéfice du doute de la complexité de la relation israélo-palestinienne. C'est peut-être beaucoup plus grave de l'autisme et la cécité d'une communauté internationale qui, comme vous dites, Régis Debray, entretient l'illusion qu'il y a un processus de négociation et que, soi-disant, en 2008, avant la fin du mandat du président Bush, on va avoir un État. Elle aussi, elle souffre de ce déni de réalité. Elle est complice de la cécité et de l'autisme des autorités politiques et militaires israéliennes. Et à mon avis, c'est par un calcul d'un cynisme terrible, parce qu'ils pensent que leur intérêt réside avec Israël et pas avec les Palestiniens, qui ne sont pas assez importants, ne sont pas assez producteurs de pétrole, et ils ne sont pas une armée puissante pour protéger les intérêts américains dans la région. Mais c'est à très courte vue, parce que je pense que ça ne peut pas aller au-delà où nous sommes arrivés aujourd'hui. Deuxièmement, Pourquoi est-ce que les Palestiniens ne s'adressent pas à l'opinion internationale? C'est ce qu'ils font depuis, je dirais, au moins 40 ans. L'OLP, depuis 40 ans, s'adresse à toutes les instances internationales, onusiennes, européennes, médiatiques, à France Inter, comme le fait maintenant. Je crois que vous sous-estimez combien maintenant la plupart des gens qui s'intéressent aux relations internationales connaissent la réalité du problème palestinien. Ce n'est pas vrai qu'ils ne le reconnaissent pas. Il y a aujourd'hui un échange sur le plan des contacts, même des voyages qui se fait et les gens voient la réalité. Ce n'est pas une absence de connaissance, c'est une absence d'action parce qu'il n'y a pas d'acteurs sur le plan international pour assumer. La preuve, on voit la communauté internationale, qu'elle soit américaine ou européenne ou même arabe, intervenir dans tous les autres conflits du monde, du Kosovo, au Congo, au Timor oriental et jamais en Israël. Parce qu'Israël est un État au-dessus du droit. Et je pense qu'en traitant Israël comme un État qui n'a pas l'obligation de respecter le droit, on le pousse à la faute dans laquelle il arrive aujourd'hui, qui est à mon avis existentielle et très grave pour Israël aussi. Dernière question. Pourquoi est-ce qu'on ne dissout pas l'autorité? C'est un débat aujourd'hui qui est ouvert parce que les premiers à voir la réalité, ce n'est pas les visiteurs comme vous et moi ou comme d'autres journalistes, c'est la population palestinienne, c'est elle qui vit avec le nez collé au mur, c'est elle qui voit ses terres annexées par les colonies qui s'intensifient, c'est elle qui a assiégé à Gaza totalement à tous les niveaux là. Et donc, c'est pas à elle qu'on va dire qu'il y a une schizophrénie, comme vous dites, entre le discours et la réalité politique. Mais dissoudre l'autorité, ça a des implications très importantes sur le plan des responsabilités. Je vous rappelle que cette autorité, elle commence en 1994. Elle instaure non seulement des négociations politiques, c'est pas le plus important, et je pense qu'avec Rabin, ces négociations ont donné des résultats, mais elle instaure aussi un parlement, une présidence, des ministères, elle prend en charge les écoles, les hôpitaux, les municipalités. Vous voulez que, en dissolvant l'autorité, on dise à notre population qu'on va redonner notre système, par exemple, d'éducation publique et de santé publique à l'armée israélienne? À qui on va le confier? Sinon, on dissout cette responsabilité des services que nous octroyons à la population civile et aux citoyens palestiniens. On va les livrer aux Israéliens? S'il y avait ce que j'appelle une communauté internationale qui assume ses responsabilités, encore on pourrait dire on les confie aux Nations Unies. Mais il n'y a même pas cette prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge politique, humanitaire, juridique d'une question qui taraude le monde depuis 60 ans. Il n'y a pas de prise en charge. Parce que l'histoire d'Israël est celle d'une histoire tragique, d'un génocide, d'une diaspora, d'une difficulté, le monde est complice dans l'oubli de ce qui est le seul enjeu pour l'avenir des Israéliens, qui est-ce qu'ils peuvent vivre avec les Palestiniens. Et je pense que pour ça, la situation aujourd'hui est dans une crise qui ne peut pas se résoudre dans un tête-à-tête entre Israéliens et Palestiniens. Il est nécessaire qu'une partie tiers assume cette responsabilité, et je ne vois pas qui elle peut être, en tout cas sûrement pas M. Bush, parce que ce n'est pas dans les dernières années de son mandat, qui maintenant n'est plus que 6 mois, qu'il se réveille pour dire oui, effectivement, la question israélo-palestinienne est importante. Ça fait 8 ans qu'il nous dit que la seule chose qui importe, c'est la lutte antiterroriste, et je pense qu'il a contribué beaucoup à permettre à Sharon avant et à Olmert après de détruire ce que nous avons construit entre 1994 et 2000, ça veut dire les prémices d'un État palestinien avec des institutions réelles qui fonctionnaient, qui sont aujourd'hui détruites. Et donc, pour toutes ces raisons-là, bien sûr, il faut une nouvelle stratégie. Et il y a une discussion très profonde. Parmi ces discussions, il y a une discussion entre le Hamas et le Fatah, entre les indépendants et les partis politiques qui existent, pour développer une nouvelle vision. Mais c'est facile à dire à une population qui est une petite population avec un leadership qui n'est pas très important sur le plan du nombre et qui est harcelé quotidiennement. C'est une bataille de chaque seconde pour aller à l'école, pour avoir un passeport, pour sortir, pour entrer, pour pouvoir faire entrer de l'électricité, pour avoir du fuel, pour pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture. Les gens sont tellement harcelés que c'est très difficile de leur dire « vous devez réfléchir à une nouvelle stratégie ». Les gens ne peuvent pas se voir. Il y a 580 barrages qui ne séparent pas les Israéliens des Palestiniens, qui séparent les Palestiniens des Palestiniens. Vous allez me dire que pour la sécurité d'Israël, il faut empêcher un habitant d'un village d'aller à une réunion, par exemple, politique dans une ville palestinienne. C'est 580 barrages. Ils vont en augmentant, pas en se luisant. Il y a un mur qui ne sépare pas Israël des territoires, puisqu'il n'est pas sur la ligne verte. Il sépare Palestiniens Palestiniens de Palestiniens. Il y a une volonté, et je le dis de manière tout à fait malheureusement lucide, et je l'ai vécu physiquement, il y a une tentative israélienne d'atomiser la société palestinienne. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se voir, et la Banque mondiale vient à la veille de la grande conférence de Londres qui a eu lieu samedi dernier, de dire, écoutez, ça ne sert à rien de continuer à parler d'aider l'économie palestinienne, et le Premier ministre palestinien dit la même chose, si on ne peut pas importer, exporter, circuler, que ce soit avec les marchandises, ou les capitaux, ou les personnes, parce qu'une économie a besoin avant tout du droit à la circulation. Et ceci, au nom de la sacro-sainte sécurité, que personne n'ose questionner, ceci est la réalité de la vie quotidienne des gens.
Leïla Chaïd, une réaction là-dessus, Régis ?
Moi, je pense que Leïla Chaïd dit la vérité, mais qu'est-ce qu'on voit, nous ? On voit des photos de Mahmoud Abbas avec M. Bush, avec M. Olmert, chacun assis dans un fauteuil, conversant très gentiment. Est-ce que ça, c'est vraiment une façon de mettre l'opinion internationale au pied du mur ? Est-ce que par toutes ces faux-semblants photogéniques, médiatiques, on aide la communauté internationale à faire prendre conscience ? En tout cas, pas l'homme de la rue. Donc là, je crois vraiment que l'endormissement, c'est pas seulement... On peut évidemment critiquer l'hypocrisie des chancelleries, mais il y a peut-être aussi, du côté palestinien, une autocritique à se faire. Parce que vous dites, il faut une tierce partie. D'accord. Qui ? Bon, moi, j'ai proposé que l'ONU s'installe à Jérusalem. Ça me semblerait la chose la plus équilibrée.
Oui, mais après ce qu'on vient idéal. Oui, ce serait idéal, mais après ce qu'on vient de dire, ouais. De la façon dont... Oui.
Mais la tierce partie, c'est qui ? Soyons sérieux. Est-ce que c'est les États-Unis d'Amérique ? Non. Pour des raisons, je dirais, théologiques, liées aux conditions même de la naissance des États-Unis. Les États-Unis sont un pays biblique et sont, en quelque sorte, en dette avec l'imaginaire du peuple hébreu, avec le peuple hébreu lui-même. Les États-Unis sont, je dirais, un enfant d'Israël et non pas l'inverse. Une solidarité familiale autour de l'Ancien Testament, autour du monothéisme biblique, bon, qui est le ciment. Américain. Donc ça, c'est pas de là que cela viendra. Et c'est une chose qui dépasse de loin la PAC, ce qu'on appelle le lobby israélien. Ça, c'est bon. De l'Europe, évidemment pas. Puisque l'Europe a commis l'un des plus épouvantables crimes contre l'humanité, qui est la Shoah, que l'Europe traîne ce remords, ce complexe de culpabilité qui l'honore, par ailleurs, lui lie complètement les mains. Donc, qui peut intervenir ? Ce n'est pas la communauté internationale, pour autant que celle-ci désigne l'Amérique et ses alliés. Donc, il faut que, à mon sens, il faudrait, je sais que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, que c'est facile de loin dans un studio, mais on aurait envie que quelqu'un du côté de la Palestine, comme du côté d'Israël, il en existe déjà, des gens comme Avraham Bourg...
Dans l'opposition, oui.
Oui, dans l'opposition, mais dans la société civile aussi. Je vous ai parlé de ce film hier, j'ai vu hier, les citronniers. Bon, ben voilà, vous voyez qu'il y a en Israël même des gens qui prennent conscience...
Je suis la première à le dire, mais...
Dans l'intérêt même, que ce n'est pas l'intérêt même d'Israël, à long et à moyen terme, que d'entretenir cette situation d'enfermement, de paranoïa sécuritaire. Les amis d'Israël doivent comprendre que ce n'est pas aider Israël que d'entretenir cette situation. Mais du côté palestinien, on voudrait entendre une voix qui sorte du ronron, quoi, qui dise, écoutez, non, c'est très grave ce qui se passe, c'est très grave pour nous, c'est très grave pour vous, communauté internationale, parce que si nous échouons, vous aurez Al-Qaïda ou quelque chose semblable sur le dos. Et donc, réveillez-vous. On attend un coup de clairon dans l'intérêt de tous venant de la Palestine.
Je voudrais qu'on revienne sur une chose toute simple. C'est que si Israël pousse jusqu'au bout la politique actuelle, on arriverait à une annexion de tout le territoire. Il n'y aurait plus qu'un seul État.
c'est-à-dire un État où les Palestiniens auraient les mêmes droits ou non que les Israéliens. Je veux dire par là que si cette accumulation de faits accomplis à la fois têtus et parfois ténus auxquels on assiste conduisent petit à petit, avec cette peau de chagrin qui va en se réduisant, finalement, à absorber tout le territoire. Qu'est-ce qui se passerait si, effectivement, cette politique aboutissait, Régis Debray ?
La raison d'être d'Israël, c'est de créer un pays où les Juifs ne soient plus une minorité, comme ils l'ont été, et ils l'ont payé cher, en Europe, pendant des 2000 ans, mais un pays où ils soient chez eux, c'est-à-dire où ils soient majoritaires. La raison d'être du sionisme, c'est cela. Vous ne pouvez pas demander aux Israéliens, tout d'un coup, même si c'est effectivement, comme vous le dites, la conséquence absolument paradoxale et folle de leur
la politique actuelle,
annexion de facto, en tout cas de la Cisjordanie, le but étant chez eux sans doute de repousser Gaza vers l'Égypte, pas comme c'était le cas avant. Donc il reste la Cisjordanie. Alors un État binational, à terme, dans quelques décennies, si cet État doit rester démocratique, one man, one vote, ne serait certainement plus un État juif. Donc, à quoi bon, peut vous dire légitimement un Israélien, avoir souffert tout ça pour se retrouver à nouveau minoritaire, comme ils l'ont été, comme nos amis juifs l'ont été dans la Russie tsariste, dans l'Allemagne de la République de Weimar, et on voit ce que ça a donné ensuite. Bref. Non, je crois que un État binational, effectivement, sur le papier, c'est ce qui semble le plus logique, me semble inacceptable pour un Israélien.
Mais ce qui est paradoxal.
Et donc, le paradoxe, c'est qu'Israël serait le premier intéressé à créer un État palestinien, à laisser se créer un État palestinien, comme on dit, viable et indépendant, c'est-à-dire avec continuité territoriale et un minimum de souveraineté. Donc, c'est vrai que, en quelque sorte, l'obsession sécuritaire fait qu'Israël ne sert pas ses propres intérêts à long terme, tant moraux que politiques, n'est-ce pas ? Mais pour répondre à votre question, honnêtement, je le fais avec toute la prudence qu'il faut, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste de la région, je ne suis pas israélien, je ne suis pas juif. Donc ce n'est pas à moi de vous répondre, mais il me semble, d'après ce que j'entends dire de mes amis israéliens, que l'État binational, sauf pour une petite minorité, disons de gauche ou d'extrême gauche, n'est pas une solution historiquement acceptable de ce point de vue.
Oui, sauf que là on ne parle pas de ces progressistes minoritaires qui souhaitent un État binational, c'est que
la logique même de la situation.
Voilà, c'est ça. Le grand Israël, c'est la fin d'Israël.
Eh ben, vous venez dire en une formule ce dont un certain nombre d'Israéliens sont en train aujourd'hui de prendre conscience.
Leïla, Chaïd, sur cette...
Je pense que c'est la logique même de la démographie fera qu'en 2020, Ehud Olmert, il y a 2 mois, a dit « Je négocie parce que mon cauchemar, c'est qu'on ne négocie pas et qu'en 2020, sur le grand Israël, qui englobe la Palestine et Israël, il y aura autant d'Arabes chrétiens et musulmans que de juifs. Et en 2030, il y aura plus d'arabes que de juifs. Donc ça ne peut pas devenir réellement un État viable pour le sionisme, en tout cas. Et je pense qu'il est déjà un État d'apartheid, parce qu'il y a déjà 2 lois, une qui s'applique aux Palestiniens, une qui s'applique aux Israéliens.
Mais je dirais... Aux Palestiniens, Israéliens, vous voulez dire, aux Arabes, Israéliens.
Oui. Et donc je dirais qu'il y a autre chose. Il y a bien sûr cette cécité évidente, mais personne dans tous les articles que j'ai lus qui célèbrent les 60 ans ne dit ce que beaucoup de commentateurs courageux israéliens disent tous les jours dans les livres et dans la presse, c'est qu'il y a une crise politique très profonde dans le système politique israélien. Aujourd'hui, prenez un à un les dirigeants. Regardez le scandale de M. Olmert avec la corruption. Il peut être démis dans quelques jours, selon ce que dira le procureur du dernier scandale, qui est le 5e, après 4 autres. Regardez ce que fait M. Barak, qui est supposé être le socialiste, le travailliste parmi eux. Ça veut dire qu'il est en train, littéralement, de faire des crimes de guerre à Gaza pour montrer qu'il lave l'honneur de l'armée israélienne qui a été mis à bas par la guerre du Liban et la non-victoire de l'armée israélienne face au Hezbollah et le rapport Vinograd qui le reconnaît. Regardez Tzipi Livni, le ministre des Affaires étrangères, qui ne fait qu'attendre que Olmert tombe pour elle, en tant que ministre d'Al-Kadima, devienne premier ministre. la situation politique israélienne est telle que depuis un certain temps, ça n'a pas commencé hier malheureusement, le seul, je dirais que ça a commencé avec la disparition de Rabin. L'intérêt des politiques, ce n'est pas l'avenir de leur pays, ni les générations des jeunes, mais qui va récupérer le pouvoir. Et je crois qu'il y a une crise de confiance très profonde qu'expriment les Israéliens lorsqu'on les lit, lorsqu'on les entend. Et je pense que c'est pour ça que c'est une crise très profonde dans l'abondance. Parce que la différence, bien sûr, c'est qu'Israël est une économie qui marche bien, très bien, avec une croissance de 5. Nous, on a une croissance 0 en 2007, avec des relations internationales très importantes sur le plan commercial et une protection d'un parapluie américain qui n'est pas seulement une question historique et biblique, Régis Debré. Je pense que c'est très intéressant de voir pourquoi les Américains sont tellement intéressés à Israël, mais uniquement après 67. Avant 67, il n'y avait pas ces relations entre Israël et les Américains. C'est parce que Israël a montré qu'elle pouvait être un gendarme pour les intérêts américains dans la région, et plus spécifiquement le pétrole, qu'elle est devenue aussi le premier allié. Il y a des intérêts, et c'est pour ça qu'on peut espérer que si il y a un changement de politique américaine, si quelqu'un comme M. Barak gagne, toute la vision des Américains, de leur rapport à toute la région, pas seulement à Israël, mais aussi aux Arabes et aux Iraniens, changera.
Oui. Régis Debray, une conclusion ?
Oh, une conclusion, non. Sur la crise israélienne, deux mots. Nous avons en Israël une société, une économie, une culture en pleine vitalité. Les superstructures politiques sont-elles en pleine crise? Mais il ne faut pas que l'arbre nous cache la forêt. Israël a deux atouts. C'est une justice indépendante, en tout cas, qui a une grande marge de manœuvre, et une presse libre, qui a un grand franc-parler. Ça, ce sont, si vous voulez, des éléments démocratiques. Et moi, personnellement, je veux croire qu'entre la logique démocratique et la logique de l'apartheid, c'est la première qui l'emportera. Et je dis cela en pensant à tous les personnes, les israéliennes que j'ai rencontrées ici et là, qui me semblent vraiment témoigner d'un courage civique extraordinaire. Deuxième point sur les États-Unis. Oui, bien sûr que les États-Unis croient dans le pétrole, mais ils croient aussi en Dieu. In gold we trust, in God we trust. Gold et God, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, quand les intérêts rencontrent l'idéologie, ça fait quelque chose de très stable. Et je ne pense pas qu'on puisse attendre grand-chose des États-Unis pour ce qui est d'exercer une pression réelle sur les gouvernements israéliens. Sur l'Europe, enfin, oui, les 27, c'est la non-décision, c'est-à-dire c'est le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire le ciel est bleu, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, soyons pour la paix, si tous les gars du monde.
C'est pour ça, le bien et contre le mal.
C'est ça le niveau de la diplomatie européenne. Encore une fois, je crois qu'il faut secouer l'opinion publique. Il faut vraiment que l'opinion en France se réveille et qu'elle puisse affronter l'autre face de la belle médaille israélienne, qui est la situation de plus en plus insoutenable des Palestiniens, qu'on ne peut pas continuer à minorer ou à cacher. Je voyais que depuis Annapolis, il y a eu 430 tués palestiniens, n'est-ce pas ? C'est tout de même quelque chose de plus que choquant, voilà. Et là, il me semble que il y a, excusez-moi de vous le redire, une crise de l'autorité nationale palestinienne, du mouvement national lui-même, comme si l'autorité était en quelque sorte prise en otage. Cette communauté internationale qui hypocrite, qui voilà.
Si je peux juste répondre à Régis, oui. Daniel Mermet, je suis totalement d'accord, elle est prise en otage. Avant tout, par le fait qu'elle a été la première victime pendant les 8 dernières années de toute cette campagne de soi-disant guerre antiterroriste qui a fait de l'autorité un des agents terroristes du monde. Et on a détruit l'autorité physiquement. Si elle n'existe plus, si elle est aujourd'hui tellement affaiblie, c'est parce que de 2001 à 2007, on a dit que Ben Laden, c'était Arafat, et que les Palestiniens, c'était exactement comme Al-Qaïda. Et qu'on a physiquement bombardé toutes ces structures. Nous sommes en train de reconstruire toutes les institutions palestiniennes qui ont été, qui sont sorties d'Oslo, qui sont sorties en 94-95 à travers des élections démocratiques que le monde entier a saluées, inclus les élections qui ont donné au Hamas la majorité. Et c'est le monde qui a refusé de reconnaître ce résultat démocratique. C'est le monde qui a boycotté. Même l'Union européenne a boycotté le gouvernement de coalition nationale. Vous êtes surpris qu'elle est détruite et qu'elle est prise en otage. C'est la conséquence d'une politique volontaire européenne et américaine. Et nous en payons aujourd'hui les pots. Réellement, je pense qu'il y a une réflexion, mais elle se fait dans des conditions tellement difficiles. Il y a des voix qui s'élèvent. Il faut qu'ils apprennent à parler dans la même langue que le monde. Ce n'est pas une question de vocabulaire. 90% des Palestiniens parlent anglais. C'est une question de réceptivité intellectuelle. Vous l'avez dit, Régis Blé, il y a un blocage, pas seulement par rapport aux Palestiniens, mais aussi par rapport aux Égyptiens, aux Libanais, aux Irakiens. L'Irak est une tragédie, un crime contre l'humanité, je dirais, parce qu'on a dépecé un pays qui n'était pas responsable des attentats, ni qui avait des moyens nucléaires. Et aujourd'hui, c'est presque trop tard pour le recoller. Et pour toutes ces raisons-là, c'est évident qu'il y a en Israël qui est protégé. Et je suis la première à reconnaître la valeur de la presse que je lis tous les jours et de la justice qui est complètement indépendante. On le voit aujourd'hui avec le Premier ministre. Mais ça ne suffit pas pour faire une démocratie. Et surtout, ça ne suffit pas pour donner les moyens à l'establishment qui dirige le pays, la lucidité nécessaire pour qu'il voit que le meilleur moyen pour faire de ce pays réellement un partenaire de toute la région, parce qu'il faut qu'il s'intègre pas seulement avec les Palestiniens, mais avec tous les Arabes autour, c'est de permettre à cet État palestinien d'exister après 60 ans de lutte. Et je crois, comme vous dites, je pense que dans tous les combats, rappelez-vous la France en Algérie, c'était toujours des minorités qui voyaient juste. Et aujourd'hui, les justes en Israël, qui sont justes par rapport aux Palestiniens, c'est pas important qu'ils soient majoritaires ou minoritaires parce qu'ils ne sont pas des élus à la Knesset. Mais par contre, il faut que quelqu'un écoute leur discours. Et ce discours, il s'adresse au monde. Il ne s'appelle pas seulement aux Israéliens. Comme s'adresse au monde le discours palestinien.
Merci beaucoup, Leïla. Merci, Régis Debray. Merci à tous les deux. Merci à tous. Je rappelle le titre du bouquin de Régis Debray, Un Candide en Terre Sainte, c'est chez Gallimard. À signaler aussi le livre d'Emmanuel Faux, longtemps, pendant 4 ans, je crois, correspondant pour Europe 1 à Jérusalem, qui s'intitule Le Nouvel Israël, un pays en quête de repères, avec une préface de Charles Anderlin. Et de Charles Anderlin aussi, un livre passionnant qui s'appelle Par le feu et par le sang, et qui raconte la période 1936-1948, comment s'est déroulé le combat clandestin pour l'indépendance d'Israël. Et ça n'a pas été un dîner de gala. Et puis je vous signale aussi un entretien dans France-Palestine, la revue France-Palestine, un entretien de Thomas Cantaloube avec Stéphane Hessel. Et Stéphane Hessel dit « La solution de deux États israéliens et palestiniens est devenue caduque ». Stéphane Hessel a voyagé dans la bande de Gaza, de Ramallah en Cisjordanie et de Jérusalem, et cet ancien ambassadeur de France nous raconte comment le pessimisme a gagné les consciences des Palestiniens, ce qui est assez proche de ce qu'on vient d'entendre. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, la-bas.org, à la technique Sophie Moreno et Patrick Henry aujourd'hui. C'est Koyem Guyen et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission, ainsi que de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Humbert qui attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.